Bonjour à toi qui te réveilles, il est 6h en ce mardi 28 octobre. C'est le matin, c'est le début de la semaine, enfin, c'était hier le vrai début, mais c'est le deuxième début, deuxième réveil.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Il est 6h, l'heure de s'informer, pour cela, Ludovic Turin, bonjour, Ludovic.
Bonjour Johan, bonjour à tous. La mobilité transfrontalière sera au cœur d'une table ronde ce jeudi à Port-Valais. Sur initiative de Chablais Région et des communes françaises, les représentants politiques et les partenaires techniques franco-suisses échangeront sur les défis de modernisation du trafic routier, ferroviaire et lacustre régional. Avec plus de 4000 travailleurs frontaliers qui traversent chaque jour la frontière de Saint-Gingolph, la fluidification du trafic sur ce tronçon est un enjeu crucial pour le futur de l'économie chablaisienne. En plus des nombreux chantiers déjà prévus, plusieurs nouvelles pistes sur l'eau sont envisagées, et ce pour décongestionner la région en collaboration avec la CGN ou Mobifly. Norbert Zuffray, directeur de l'association Chablais Région.
On va évidemment thématiser la problématique des liaisons lacustres, qui peut être une solution intelligente et intéressante à étudier. On doit travailler un peu en termes de multisolutions pour avancer et trouver des solutions pragmatiques par rapport à cette thématique qui est importante pour la vie quotidienne et les déplacements professionnels dans la région.
Des propos recueillis par Anthony Dacampo. Déjà saturée, la route reliant la France à Montais devrait connaître une hausse considérable d'usagers ces prochaines années. En cause, la suspension durant 2 ans du train entre Saint-Gingolph et Le Bouvray pour travaux, ainsi que la réduction des liaisons lacustres de la CGN jusqu'en 2027. La première édition de la quinzaine du livre suisse commence cette semaine et se tient jusqu'au 9 novembre. La manifestation est organisée par la fêtière des éditeurs, diffuseurs et libraires romans, Elle Livre Suisse. Son objectif est de mettre en valeur les maisons d'édition et auteurs helvètes dans les 17 librairies romandes participantes. Dans la région, la librairie La Fontaine à Vevey met dès aujourd'hui une vitrine avec des titres suisses en valeur et organise une série d'événements. Pablo Tuller, gérant de la librairie veuvezanne, au micro de Valérie Favre.
L'édition suisse est d'une telle vitalité, d'une telle vigueur actuellement qu'on se rend compte qu'il y a énormément de productions qui passent des fois peut-être un peu sous les radars et puis que c'est une belle opportunité de pouvoir les mettre en avant, notamment à l'approche des fêtes. Offrir un livre suisse à vos proches pour Noël, ça fera des heureux. Et puis on se rend compte que c'est aussi l'occasion de faire une sorte de bilan un peu de l'année écoulée, de se dire il y a énormément de choses qui ont été produites. Il y a la rentrée littéraire qui a été extrêmement riche, il y a beaucoup de choses à ce niveau. Voilà. Donc c'est le moment aussi pour nous de faire tirer un bilan de l'année de production des livres en Suisse et des auteurs suisses.
Et parmi les événements organisés par la librairie La Fontaine, il y a notamment vendredi à Corzo, à la Villa Le Lac, une soirée d'Halloween mise sur pied en collaboration avec les éditions Gore des Alpes, spécialisées dans l'horreur et le sanglant. À noter encore que le Baobab et Zalactoré, deux librairies de Martigny, prennent également part à l'action. Le traité de capitulation avec l'Union européenne, c'est la fin de la voie bilatérale. C'est une citation de l'ancien conseiller fédéral UDC, Christophe Blocher, hier à Berne. L'organisation pro-suisse a dit tout le mal qu'elle pense des bilatérales 3. Un abus de langage, dénonce-t-elle. La prospérité économique de la Suisse ne passe-t-elle pourtant pas par un nouvel accord avec l'Union européenne? L'élu genevoise du MCG, Léna Ray.
Je pense que le paramètre économique est une façon de brandir la peur comme on le fait à chaque fois. On nous promet un peu plus de sécurité et ça marche parce que les gens ont peur. Mais cette avancée pour la sécurité est une perte pour nos libertés. Concrètement, dans les libertés que nous allons perdre, je dirais que c'est surtout déjà le principe de cette logique féodale. On est face aux grands qui menacent justement notre liberté en nous imposant de payer un tribut pour pouvoir accéder au marché européen. Franchement, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que la liste est longue et que simplement le fait d'avoir une ingérence des juges étrangers, déjà c'est suffisamment grave pour ne pas aller gratter plus loin.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. À l'étranger, un séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter a frappé hier la ville de Sindirigi, dans l'ouest de la Turquie. La secousse, ressentie jusqu'à Istanbul et Izmir, n'a pas fait de victimes, selon les autorités, mais 3 bâtiments déjà fragilisés se sont effondrés. Le pays reste marqué par de nombreux drames sismiques, dont celui de février 2023, qui avait fait plus de 53 000 morts dans le sud-est du pays. Et puis un rapport des Nations Unies accuse la Russie d'avoir commis un crime contre l'humanité en forçant des civils à fuir les territoires territoires ukrainiens. Selon la commission d'enquête indépendante, Moscou a mené des attaques répétées de drones contre des zones habitées, frappant maisons, infrastructures et convois humanitaires. Elle dénonce aussi des crimes de guerre, notamment la déportation de civils depuis la région de Zaporijja vers la Russie ou la Géorgie. Les enquêteurs affirment que ces actions ont poussé des milliers de personnes à l'exil dans des conditions jugées illégales au regard du droit international. Et puis les États-Unis et le Japon signent un accord cadre pour sécuriser leur approvisionnement en terres rares et minéraux critiques. Un partenariat stratégique face aux restrictions imposées par la Chine, qui domine largement le marché mondial de ces matériaux essentiels aux technologies de pointe, aux batteries ou encore à l'armement. Signé à Tokyo par Donald Trump et la première ministre japonaise Sanae Takaichi, le texte prévoit une coopération renforcée et des investissements conjoints pour soutenir des projets miniers et industriels prioritaires. Enfin, Paul Biya reste au pouvoir au Cameroun. À 92 ans, le président en place depuis 1982 a été réélu pour un nouveau mandat avec 53,66% des voix, selon les résultats officiels publiés hier. Son principal rival, Issa Tiroma Bakary, qui obtient 35,19%, dénonce une mascarade électorale et s'est autoproclamé vainqueur. Des manifestations parfois violemment réprimées ont éclaté à Douala et Garoua, faisant plusieurs victimes selon des témoins. L'ONU a appelé à la retenue et à l'ouverture d'enquêtes.